RFJ, il est 12h15. Le journal avec vous, Thomas Nagy, bonjour.
Bonjour, Delémont BD, c'est parti. La 7e édition du festival a démarré hier soir et se tiendra jusqu'à demain dans la capitale jurassienne. Après une édition 2020 marquée par le Covid-19, les auteurs font leur retour dans la manifestation. L'invité d'honneur de cette année, Alfred, est l'invité de ce journal. C'est un projet qui prend de l'ampleur. La maison de paille à Esserfallon a entamé un projet d'agrandissement. Les 20 hectares de la fondation seront notamment exploités par une dizaine de personnes et viseront l'autosuffisance et la vente en circuit court. L'Euro 2020 bat toujours son plein et c'est une nouvelle belle journée qui attend les fans de football aujourd'hui. L'Allemagne affronte le Portugal à 18h. Une affiche qui sur le papier s'annonce prometteuse. La France, elle, se frottera à la Hongrie à 15h, alors que l'Espagne en découdra avec la Pologne à 21h. Sans surprise, il va faire chaud aujourd'hui, jusqu'à 31 degrés en pleine, 28 sur les hauteurs. Le ciel sera par contre voilé par endroits en raison de cumulus, mais le risque orageux lui restera faible. Delémont BD bat son plein. Le festival se tient ce week-end dans les rues de la capitale jurassienne. Une 7e édition qui renoue avec ses habitudes puisque les auteurs sont à nouveau présents physiquement dans le festival cette année. L'année dernière, la pandémie les avait tenus à l'écart de la manifestation. Cette année donc, une trentaine d'autrices et auteurs sont présents pour présenter leur travail et rencontrer le public. Parmi eux, l'invité d'honneur de cette 7e édition, le français Alfred, auteur de plus de 40 ouvrages, dont par exemple Come Prima, pour lequel il a reçu le Fauve d'or du festival d'Angoulême en 2014, ou plus récemment Senso et le dernier en date Castelmore. Bonjour Alfred.
Bonjour.
Invité d'honneur de Delémont BD, Grand Trissou, donc qu'est-ce que ça représente pour vous cette invitation?
Déjà, ça représente le plaisir de me dire que les festivals peuvent recommencer, puisque effectivement on avait été très frustrés de ne pas pouvoir le faire l'année dernière. Donc le simple fait d'être là signifie que ça va un peu mieux, qu'on peut donc se retrouver, qu'on peut donc se rencontrer, qu'on peut boire des coups, qu'on peut se dire des choses en se regardant vraiment dans les yeux. Donc ça déjà, ça fait plaisir. Et puis moi, j'aime toujours venir en Suisse, donc c'est toujours un beau cadeau de venir.
Vous êtes autodidacte. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la bande dessinée?
Moi, je viens d'une famille de comédiens. Mes parents sont comédiens. J'ai grandi là-dedans. J'ai grandi dans des théâtres et j'ai grandi surtout en voyant des gens sur scène en train de raconter des histoires avec leur corps. Et moi, depuis les coulisses, moi qui étais un garçon plutôt timide et réservé, je dessinais ce qui se passait sur scène. Ce sont mes premières histoires dessinées, mes premières bandes dessinées. C'est de retranscrire ce qui se passe devant moi sur scène en rajoutant des dialogues, en changeant des décors. Mais c'est de m'approprier tout ça et d'en faire une matière propre. En fait, j'ai jamais arrêté simplement parce que je me suis aperçu que ça me faisait un bien fou de faire ça et que c'est encore le cas aujourd'hui.
Vous êtes dessinateur, illustrateur, mais le théâtre occupe aussi une part importante dans votre vie aujourd'hui.
De fait, de par cette enfance, le théâtre a toujours eu beaucoup de place dans mon travail et dans ma vie, évidemment. Même si je m'en suis éloigné en devenant auteur de bande dessinée, j'ai toujours fait en sorte que le dessin vienne dans des théâtres. Donc j'ai toujours créer des occasions, que ce soit des pièces, que ce soit des concerts dessinés, que ce soit des performances dessinées scéniques. J'ai toujours fait en sorte que le dessin continue de venir sur des scènes et me permette de nourrir. En fait, le théâtre et le dessin, pour moi, se nourrissent à équivalent. J'ai besoin des deux.
Les jardins, c'est le thème du festival cette année. Ils sont aussi au centre de votre travail sur l'affiche du festival que vous avez réalisée, sur l'œuvre aussi intitulée Nid d'amour, réalisée spécialement dans le cadre du parcours muséal Les Jardins Merveilleux de Delémont BD, et dans vos publications aussi, par exemple dans Senso, où le personnage principal se perd dans l'immensité du jardin d'un hôtel italien. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans les jardins ?
Ma mère a la main verte. Quand j'étais gamin, elle était capable de créer une forêt vierge à l'intérieur d'un appartement ou d'une pièce de 2 mètres sur 2. Et j'adorais me cacher là-dedans pour bouquiner et pour dessiner. Ouais, je pense qu'entre deux ficus et un yucca, elle me donnait la sensation d'être dans une forêt vierge. J'ai toujours aimé ça et ça a toujours été un peu au cœur de mes envies de dessin, jusqu'à carrément devenir presque personnage d'un livre, comme c'est le cas dans Senso, qui est un parc immense qui évolue même à mesure que les sentiments des personnages avancent. L'affiche, en fait, c'est tout simplement moi. Je me suis représenté moi au milieu de ces fameuses plantes maternelles et j'avais envie de faire un petit clin d'œil à cette enfance qui me relie encore une fois au dessin de manière très forte.
Et à contrario, on a l'impression parfois dans Senso que la foule a un côté un petit peu anxiogène par exemple.
Alors, de par effectivement mon tempérament de départ qui est, comme je le disais, un peu réservé, J'ai toujours une tendance à me tenir un peu à l'écart de la foule, même si je suis ravi de la retrouver aujourd'hui, après cette année un peu de jeûne. Ça me fait un bien fou que de dire qu'on se retrouve en foule et qu'on pourra peut-être même bientôt être dans des concerts et des spectacles ensemble. Après, voilà, j'ai une tendance naturelle à me mettre un peu à l'écart et à observer plutôt qu'à participer ce qu'on va appeler la foule, quoi, même si je l'aime beaucoup.
La foule qui tranche un peu avec la nature, avec les jardins, le contraste, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans votre travail, que ce soit dans l'utilisation des couleurs, des techniques ou même dans le rythme. C'est quelque chose à laquelle vous faites très attention.
En fait, j'ai besoin de faire des grands écarts. J'ai besoin de rythmer même mes propres projets, de partir sur quelque chose de très très court qui va me demander une énergie intense pendant 15 jours, puis le projet suivant, de partir sur quelque chose de très long et beaucoup plus ample qui va me demander 2 ans. J'ai besoin d'alterner en permanence et je pense que ça se ressent même dans le rythme de mes récits et même de mes techniques de travail. J'ai besoin de travailler au pinceau pour avoir quelque chose de très souple et puis le projet d'après au stylo bic pour avoir quelque chose de très rêche. Voilà, j'ai besoin en permanence d'alterner et de faire, comme je le disais, des grands écarts pour m'enrichir un peu de tout ça.
Dans Castelmore, votre dernière publication, c'est Lévis Trondheim qui s'occupe du scénario. Vous vous êtes au dessin pour raconter les aventures d'un mythographe en quête de légende. Dans l'ouvrage précédent, Senso, vous étiez seul aux commandes. Vous préférez travailler seul ou à deux ?
Les deux. J'ai besoin des deux pour les mêmes raisons que j'évoquais juste avant, de ne jamais faire 2 fois de suite le même livre, ou en tout cas pas de la même manière. Donc travailler seul, j'en ai besoin, d'autant que j'ai une manière un peu particulière de travailler qui est dans la semi-improvisation. Moi, je ne sais jamais quand je démarre un livre où il m'emmènera. Et puis travailler avec quelqu'un dont j'admire et je respecte énormément le travail, comme c'est le cas de Lewis ou d'Olivier K ou de David Chauvel, qui sont des gens avec qui je partage des livres. C'est une autre façon pour moi de me mettre au service d'un récit que je vais m'approprier, mais qui n'est pas forcément de moi au départ. C'est quelque chose dont j'ai besoin aussi, vraiment.
Alfred, invité d'honneur de cette 7e édition de Delémont BD, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Bel après-midi.
Merci infiniment à vous, à bientôt.
Moutier fête son futur rattachement au canton du Jura hier soir, 4 ans jour pour jour après le premier vote du 18 juin 2017. Une centaine de militants se sont retrouvés devant l'hôtel de ville pour célébrer. Une plaque intitulée « Place du 18 juin » a été accrochée à la fontaine. Le conseiller municipal Valentin Zuber a entre autres appelé les citoyens de Moutier à la réconciliation. Des racines qui s'ancrent et des terres qui se partagent à Esserfallon, lieu dédié à la nature, à l'agriculture et à la spiritualité, la maison de paille entame un processus d'agrandissement. Le petit écoquartier qui a vu le jour en 1989 sur la vallée du Clos du Doubs aura son lot de changements entre l'agrandissement de la capacité d'accueil et du panel d'activités didactiques proposées, construction d'un bâtiment et d'étangs, ateliers d'éco-construction, pose de panneaux photovoltaïques ou espaces bien-être sont des exemples de ces nouveautés. Le système agricole sera aussi totalement revu. Un système de micro-fermes sera mis en place. Les 20 hectares de la fondation seront ainsi exploités par une dizaine de personnes visant l'autosuffisance et la vente en circuit court. Les éclaircissements de Déborah Schneider qui développe son projet de maraîchage.
Chacun aura son petit projet personnel, donc dont la micro-ferme. L'idée, c'est de vraiment créer des structures qui interagissent, qui ont des synergies, aussi de faire des travaux en commun, pouvoir se répartir le travail, peut-être avec les animaux, par exemple, de se dire, ah ben, une semaine, c'est un, une semaine, c'est l'autre. De pouvoir partir en vacances, en fait, même en ayant des animaux. Il y a différents projets, il y a des projets de maraîchage, des projets de forêt nourricière, il y a des projets au niveau des soins, au niveau de la laine aussi. Il y a un bûcheron qui a un projet de gérer la forêt, de nombreuses capacités et compétences différentes.
Donc il y a une idée derrière, c'est vraiment une vision horizontale.
Oui, alors on aimerait fonctionner dans ce qu'on appelle la gouvernance horizontale. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, mais qu'on est tous un peu chef en fonction de nos compétences, mais qu'on essaye de fonctionner ensemble. On se forme pour apprendre les outils, pour décider ensemble, observer les dynamiques qui se passent dans un groupe quand il y a des prises de décision à prendre, ou qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, comment on respecte ça, comment on entend chacun. Aussi que ce soit efficace, qu'on ne passe pas une journée à décider si on doit planter un clou ou enlever une planche.
Déborah Schneider au micro de Coraline Kempf. Port-en-Truy a remis ses prix culturels et sportifs 2020 ce matin. La municipalité a choisi de récompenser le HC Ajoie pour son parcours et sa victoire en Coupe de Suisse en février 2020. Le prix culturel, lui, est revenu à Johnny Gasser. Il est récompensé pour sa victoire avec son trio White Crow au Festival international du cirque à Monte Carlo. Dans l'actualité à l'étranger, Ebrahim Raisi a remporté la présidentielle iranienne de hier au premier tour avec plus de 62% des voix, selon des résultats officiels publiés ce matin. Sur plus de 28 millions de bulletins dépouillés, l'ultra-conservateur a obtenu plus de 17 800 000 voix.
Le Portugal, champion d'Europe.
Et à l'écoute des RFJ, les 12h24.
Sport. Elle point sport avec vous, Loïc Georgi. On va prendre la température au bord des terrains de foot de notre région.
Et oui, objectif maintien pour les équipes de football de la région. Le FC Basse-Cour reçoit Bouox à 18h dans le cadre du championnat de Première Ligue. Une victoire aujourd'hui assurerait à la troupe de l'Oulzimouchi le maintien à 2 rencontres de la fin de saison. De leur côté, les SR de Lémont restent dépendants des autres résultats. Ils se déplacent à Volonne à 15h et en cas de victoire, il faudrait que Bouox ou Mouton se perdent pour s'assurer de rester à cet échelon la saison prochaine. Du côté de la deuxième ligue interrégionale, le FC Tavannes-Tramelan a le coup près sous la gorge. Les Rouges et Jaunes affrontent Binningen à 16h. La victoire est primordiale s'ils espèrent repasser au-dessus de la barre avant le dernier match. Le FC Agen-Montéry, dans le même échelon, est quant à lui encore en course pour la promotion. Les Ajouleux se déplacent à Lerchenfeld cet après-midi pour tenter de recoller au leader Thun 2. Et on joue également en Liga d'Inline Hockey aujourd'hui. Le SHC Rosmaison dispute sa première rencontre à Rotriste à 13h30. Le SHC Ajoie, quant à lui, jouera son deuxième match à 18h30 sur sa piste contre l'échelle.
Le journal de l'euro, sur le terrain de la mobilité responsable avec la nouvelle Volkswagen ID4 100% électrique à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier.
Volkswagen.
Un nouveau choc dans le groupe F de l'Euro 2020 de football. L'Allemagne affronte le Portugal aujourd'hui à 18h. Une rencontre qui sur le papier paraît alléchante au vu de l'histoire de ces deux formations. Et cette partie opposera une équipe qui est en pleine bourre à une équipe qui cherche encore ses repères. Les précisions de Guillaume Joly.
Le Portugal, champion d'Europe en titre, ne cache pas ses ambitions pour cette nouvelle édition. Les hommes de Fernando Santos doivent confirmer leur bonne entrée en matière. Ils se sont imposés lors de leur premier match face à la Hongrie 3-0. Même si elle a dû attendre la mi-temps pour réellement trouver le rythme et se lancer de la plus belle des manières dans cette compétition, l'équipe de Cristiano Ronaldo affiche une réussite et une confiance presque insolente. A l'inverse, son adversaire du jour, l'Allemagne, doit-elle sortir la tête de l'eau? Sous le feu des critiques depuis la rencontre perdue contre la France 1-0, la Mannschaft devra montrer autre chose aujourd'hui. Face à la formation de Didier Deschamps, les Allemands ont su garder la possession du ballon, mais elle s'est montrée stérile et le manque d'efficacité flagrant. Et même si l'adversaire était l'un des favoris de cet Euro 2020, il n'en sera pas différent ce soir à Munich.
Et dans l'autre rencontre du groupe F, la France n'aura pas la tâche facile à Budapest. Elle affronte la Hongrie à 15h et même si les Bleus restent sur une victoire et les Hongrois sur une défaite, Didier Deschamps est conscient que dans un stade de Budapest plein, rien ne sera facile pour eux.
L'appui du stade plein et du public est quelque chose d'important et un avantage pour cette équipe hongroise. Ça les a bien aidés sur le premier match contre le Portugal parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à la 80e minute, ils faisaient match nul. Ils ont même ouvert le score qui a été le but annulé. C'est une équipe très combative, généreuse, très bien organisée. Je pense que la présence d'un sélectionneur italien y est pour beaucoup. Et puis elle est chez elle. Donc je m'attends à avoir le même répondant qu'ils ont eu face aux Portugais.
Un stade plein donc, comme le précise le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, et les joueurs n'en ont plus l'habitude et cela peut poser certains soucis de communication, notamment comme le souligne le gardien et capitaine des Bleus, Hugo Lloris.
Ce sera plus compliqué pour communiquer sur le terrain. Il sera possible de le faire entre deux lignes, c'est-à-dire entre moi et les défenseurs et milieu de terrain attaquant. Mais ce sera difficile de sauter les lignes, ce sera difficile pour moi de communiquer avec un attaquant ou même un milieu de terrain offensif. Ce sont des paramètres qui changent, mais encore une fois, on est très heureux de revenir aux bases et aux fondamentaux de notre sport. On va vivre des émotions, les partager ensemble avec les supporters qui seront présents, les supporters qui seront devant leur télé. Et le but, c'est de gagner, toujours avec cet esprit de compétiteur qu'on a pu montrer à chaque grande occasion ces derniers temps.
France-Hongrie, une rencontre fixée à 15h alors que le Portugal et l'Allemagne en découdront à 18h. Et la dernière affiche du jour est dans le groupe E où l'Espagne affronte la Pologne à 21h. Vous retrouverez une présentation de ce match dans notre édition de 18h. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée.
Le journal de l'Euro, sur le terrain de la mobilité responsable avec la nouvelle Volkswagen ID4 100% électrique à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier.
Le soleil est de la partie, même s'il peut y avoir quelques petits orages aujourd'hui, pourquoi pas. Un temps en partie ensoleillé, quelques passages nuageux de moyenne et haute altitude, présence du sable du Sahara, donc un ciel aux couleurs un petit peu particulières. Développement de cumulus dans les Franches-Montagnes cet après-midi, risque d'orage négligeable selon Météo News. Les températures, elles restent assez chaudes avec un 29 à 31 degrés jusqu'à 28 degrés dans les Franches-Montagnes. Demain, c'est un peu plus instable, humide et lourd, un ciel très changeant. De belles périodes de soleil, quelques bandes de nuages parfois imposants. Attention, faible risque d'averse déjà en matinée.